Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Promenade en forêt aujourd'hui dans Accent d'Europe, une forêt qui est en train de renaître et même de se réensauvager, nous disent nos deux invités aujourd'hui, Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Lebel.
Vous venez de publier aux éditions Actes Sud l'Europe réensauvagée, formidable manifeste optimiste en ces temps où l'on cultive plutôt le pessimisme écologique. Avant toute chose, il faut rappeler qu'il y a 10 000 ans, l'Europe était recouverte à 80% de forêts vierges. Alors dites-nous, que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle disparu?
Ah, l'histoire de la forêt est une belle histoire, mais par la suite, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que dans le croissant fertile, on est devenu des agriculteurs éleveurs. Et à partir de là, un trio composé de la chèvre, du mouton, de la vache, est parti en direction de l'ouest. Et on a défriché, déboisé pour s'installer. Et en quelques milliers d'années, on peut dire que l'Europe est passée d'une forêt vierge pratiquement présente partout sur à peu près 8 millions de kilomètres carrés à quelques peaux de chagrin. Donc, que Onésime Reclus décrit en disant « le royaume des chèvres ». Tout avait été déboisé.
Aujourd'hui, on peut dire que la forêt recouvre combien de pourcentage de la surface du continent européen?
Dans les conditions naturelles, ce serait à peu près 80%. Et là, on peut dire aujourd'hui 30%, le tiers, si vous voulez, c'est un petit peu la valeur moyenne, quoi.
Vous êtes tous les deux naturalistes et vous défendez l'idée que la forêt est en train de reconquérir du terrain aujourd'hui parce que l'homme délaisse des territoires trop difficiles à exploiter. C'est plutôt une bonne nouvelle, non?
Oui, la bonne nouvelle, elle est là. C'est-à-dire qu'on a cette forêt qui a quasiment disparu, mais le fait qu'on ait eu recours aux énergies fossiles, le fait que les terrains en pente sont difficiles à travailler, l'exode rural, tout ça fait que dans tous nos pays, eh bien, une partie de la forêt a été oubliée, abandonnée, et il ne pouvait rien de mieux lui arriver. Donc petit à petit, elle s'est reconstituée. Et aujourd'hui, on estime à 300 000 km², donc la surface de forêt spontanée revenue, remise en place sur l'ensemble de l'Europe.
Ça voudrait dire, Béatrice Kremer-Cochet, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, finalement, juste à attendre?
Oui, et je pense que c'est ça le plus difficile pour l'homme. On a tellement l'habitude d'agir et de gérer, de diriger, que le plus difficile pour nous, en fait, il suffit de laisser faire la plupart du temps.
Il reste peu de forêts primaires en Europe, c'est-à-dire des forêts qui n'ont pas été exploitées par l'homme. Le meilleur exemple, c'est sans doute la forêt de Białowieża, à cheval sur la Pologne et la Biélorussie, une forêt qui date de milliers d'années, qui abrite aussi des troupeaux de bisons et qui est protégée par l'UNESCO et l'Union européenne. Mais le gouvernement conservateur polonais a repris des coupes très décriées, notamment sur des arbres centenaires. Je vous propose d'écouter le reportage de notre correspondante Sarah Bakaloglou qui s'est rendue sur place.
Ces mousses sur les arbres sont le signe d'une forêt naturelle primaire. Elles sont très sensibles au changement d'humidité et ont besoin d'ombre. En cas d'abattage, les conditions vont changer et elles vont probablement mourir.
Jumelle dans une main, appareil photo dans l'autre, Adam Vaudin marche d'un pas rapide. C'est notamment à cet endroit de la forêt que de nouvelles coupes sont prévues. Alors ce biologiste polonais tente de repérer, parfois à plusieurs mètres d'altitude, des espèces protégées dans cette forêt inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les autorités n'ont pas écrit dans les documents quels arbres ils vont couper, seulement les sections de la forêt concernées. C'est un des problèmes, car du coup, c'est difficile d'évaluer l'impact que vont avoir ces coupes sur la biodiversité, car on ne sait pas s'ils vont couper les épicéas, les charmes ou quelque chose d'autre.
Si l'ampleur de ces coupes reste assez réduite, 4 300 m³, les ONG environnementales dénoncent une durée d'abattage trop resserrée, 3 mois seulement, ce qui pourrait perturber l'environnement. Autre problème, les données sur lesquelles s'appuie l'institution des forêts d'État qui gère les forêts sont datées. Si les écologistes défendent une forêt qui se régénère par elle-même, à la direction régionale des forêts d'État, Jaroslav Krocek, le porte-parole, défend lui une intervention des forestiers.
Effectivement, la forêt n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Mais l'exploitation forestière à Białowieża dure depuis un siècle, depuis que la Pologne a obtenu son indépendance. Les forestiers se sont toujours occupés de cette forêt. Ils l'ont protégée. Et c'est grâce à ça notamment que c'est un chef-d'œuvre de la nature. Et ce chef-d'œuvre de la nature, en quelque sorte, ce sont les forestiers qui l'ont créé.
Dans son bureau, Jaroslav Kraček montre une carte de la forêt de Białowieża recouverte de points rouges, symbolisant les arbres sans vie. Car pour les forestiers, s'il faut intervenir, c'est parce que la forêt est en partie morte à cause de la prolifération d'un insecte xylophage qui s'attaque au bois. C'est comme cela que le gouvernement avait justifié de larges coupes en 2017 avant de s'interrompre face aux menaces de la Cour européenne de justice accusant la Pologne d'avoir violé les lois environnementales. À Białowieża, le sujet des coupes divise aussi chez les habitants des villages au cœur de cette forêt, ce que comprend Łukasz Sinowiecki, guide dans la réserve strictement protégée de Białowieża.
La forêt a été protégée par des rois durant des siècles, non pas parce que ce sont des grands défenseurs de la nature, mais bien parce qu'ils voulaient de l'espace pour leur jeu. Ils n'ont presque rien coupé. Mais les 100 dernières années, après l'invasion allemande, l'exploitation de Białowieża a commencé. Beaucoup de locaux ont participé à l'exploitation du bois. Pour eux, c'est inhabituel qu'on dise « il faut laisser la forêt à l'abandon ».
La laisser tranquille, mais aussi la protéger davantage, voilà ce que demandent certaines ONG, notamment en agrandissant le parc national de Białowieża, qui représente aujourd'hui seulement 16% de la forêt. Un projet d'agrandissement qui suscite les résistances de nombreux habitants, inquiets de ne plus pouvoir circuler librement.
Gilbert Cochet et Béatrice Kramer-Cochet, naturalistes de terrain avec nous dans Accent d'Europe. Vous connaissez, j'imagine, très bien la forêt de Białowieża. Est-ce qu'il faut cesser les coupes ou, comme le dit l'un des officiels polonais, entretenir la forêt en coupant ces éléments malades?
Alors, il y a un très bel exemple qui va nous permettre de répondre de manière argumentée. C'est l'exemple des parcs nationaux transfrontaliers de Šumava en République tchèque et du Bayerischer Wald en Allemagne. Ce sont donc deux parcs nationaux qui sont côte à côte, qui ont la même végétation et qui ont eu exactement ce même problème qu'on évoque pour la forêt de Białowieża, ces attaques par des insectes dont les larves rongent le bois, c'est des insectes qu'on appelle des scolytes. Et en République tchèque, ils ont décidé de couper tous les arbres, donc comme c'est proposé dans la forêt de Białowieża. Et en Allemagne, par contre, ils se sont dit, non, on va faire confiance à la nature, on laisse faire et on regardera ce qui va se passer. Et là où ça a été très intéressant, eh bien, c'est que du côté tchèque, les scolytes ont continué d'attaquer régulièrement les épicéas, alors que du côté allemand, petit à petit, il y a eu un équilibre qui s'est installé. Les épicéas sont des épicéas naturels, pas des plantations, comme dans les Vosges du Nord, par exemple. Les épicéas ont repris le dessus. Alors, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'en étudiant les parasites et les prédateurs des scolytes, ces parasites, ces prédateurs s'étaient développés du côté allemand, où on avait laissé faire, où on avait laissé les arbres malades en place, et où donc ces prédateurs et ces parasites ont pu se développer, alors que du côté tchèque, il n'y en avait pratiquement pas. Donc si on laisse faire la nature, finalement, elle se débrouille très bien toute seule.
La nature sait se réparer. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'elle va bien, cette forêt primaire? Est-ce qu'elle ne souffre pas aujourd'hui du changement climatique, Gilbert Cochet?
Alors, sans aucun doute, le changement climatique affecte tous les écosystèmes, mais ils ne répondent pas tous de la même façon. Une forêt vierge, c'est de la diversité. Diversité des espèces et même, à l'intérieur d'une espèce donnée, diversité des individus. Et même diversité des stations, c'est-à-dire l'emplacement où l'arbre a poussé. Et quand vous avez toute cette diversité et que vous avez l'impact du réchauffement climatique, eh bien, certains arbres vont s'en sortir mieux que d'autres. Et donc il y aura toujours une réponse positive, en tout cas beaucoup plus que dans une forêt artificielle, c'est-à-dire plantée, parce que c'est nous qui avons choisi l'espèce, c'est peut-être pas la bonne, c'est nous qui choisissons les individus, c'est peut-être pas les bons, et c'est nous qui choisissons les endroits où on les plante, et c'est peut-être pas le meilleur endroit.
Limiter l'accès de l'homme à ces forêts en tout cas. Et c'est le pari qu'ont fait les Balkans et notamment les autorités de Bosnie-Herzégovine. Je vous propose d'écouter ce que nous raconte l'un de nos journalistes, Simon Rico, sur une forêt très préservée. C'est la forêt de Perušica au sud-ouest du pays.
La dernière jungle d'Europe. Voilà comment les Bosniens surnomment affectueusement la forêt de Perušica, nichée sur les hauteurs des Alpes Dinariques au sud-ouest du pays, à la frontière avec le Monténégro. Un peu plus de 1400 hectares de nature vierge, entre 600 et 1800 mètres d'altitude, dont bien des parcelles n'ont jamais été foulées par l'homme. Préservée depuis qu'elle a vu le jour il y a 20 000 ans, avant la dernière période glaciaire, la forêt de Perušica intéresse beaucoup les scientifiques et les autorités de Bosnie-Herzégovine la préservent comme un diamant brut. Il est interdit de s'y aventurer sans guide et 14 gardes forestiers veillent jour et nuit 365 jours par an sur les 170 espèces d'arbres et une importante faune sauvage, au moins 80 ours, de nombreux loups, deux espèces menacées de félins, chats sauvages et lynx des Balkans, des rapaces et des serpents aussi rares que dangereux. Ici, la canopée dépasse souvent les 40 mètres de haut et on y trouve même le plus grand épicéa commun au monde, dont la cime culmine à 63 mètres au-dessus du sol, couvert de mousse. Camailleux de verre, parcouru de cours d'eau et de cascades, la Perušica a parfois des airs d'Amazonie, la montagne en plus. Cette jungle paradisiaque, dont la cartographie précise ne date que des années 1950, reste d'ailleurs encore largement une terra incognita. Pour maximiser sa protection, les autorités yougoslaves l'ont intégrée dès 1961 dans le parc national de la Sutjeska, le plus ancien de Bosnie-Herzégovine. Et l'UNESCO a classé la forêt de Perušica sur sa liste provisoire du patrimoine mondial de l'humanité. Ces arbres majestueux, dont certains sont vieux de plusieurs siècles, ont bien besoin de ces précautions. Dans le reste de la Bosnie-Herzégovine, pays proportionnellement le plus boisé d'Europe, mais aussi l'un des plus pauvres, les forêts sont depuis de longues années victimes d'un intense pillage pour y prélever de quoi se chauffer à moindre coût.
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet, naturalistes invités d'Accent d'Europe aujourd'hui. La solution pour protéger ces forêts, c'est de créer des parcs nationaux et peut-être même des parcs nationaux à cheval sur plusieurs pays européens, c'est encore mieux.
Oui, la création des parcs nationaux, c'est une des solutions efficaces, c'est pas la seule. Et c'est probablement pas un hasard si les deux épicéas les plus grands, c'est-à-dire 63 mètres de haut, sont dans Perušica et Bielovieza aussi. Mais il existe aussi des possibilités de mobilisation citoyenne et je pense que c'est bien que les citoyens n'attendent pas que tout vienne d'en haut et qu'ils soient capables même de se mobiliser. Et les citoyens peuvent par exemple acheter des terrains pour les laisser en libre évolution. C'est par exemple ce qui se fait en Roumanie avec la Carpathian Foundation, la Fondation des Carpates, si vous voulez traduire en français, qui achète des forêts pour pouvoir les préserver et les laisser en libre évolution. Et en France, nous avons deux associations qui font exactement la même chose. C'est l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages, et Forêt Sauvage, qui en fait historiquement a été le premier à se lancer dans ce type d'opération d'acquisition foncière pour préserver les forêts et les laisser en libre évolution. Alors l'avantage et les inconvénients, le parc national, par son origine même, c'est une surface qui peut être très grande et qui donc qui va constituer un grand sanctuaire, ce qui est la solution idéale pour le réensauvagement. Le territoire d'une meute de loups, par exemple, c'est 300 km², donc c'est très très grand. S'il n'y a qu'une meute de loups, évidemment, ça ne fonctionnera qu'à moitié, il faut qu'il y en ait au moins plusieurs. Donc un parc comme le parc national des Écrins, par exemple, qui fait pratiquement 100 000 hectares, il pourrait abriter plusieurs meutes de loups. Donc ça, c'est l'idéal. Par contre, quand on a des parcs nationaux, c'est de très longues procédures administratives et il faut souvent plus de 10 ans avant d'arriver à créer réellement le parc national entre le moment où on a décidé de le créer et le moment où il apparaît effectivement sur le terrain et où il devient fonctionnel en tant que zone de protection, il faut beaucoup de temps. Alors que les acquisitions qui sont faites par les associations citoyennes, ça va beaucoup plus vite. Par exemple, on a acheté en 2019 500 hectares de terrains variés, on va dire, dans le Vercors. Et il a fallu un an exactement entre le moment où on a lancé le projet et le moment où on a réuni les fonds pour pouvoir acheter ce terrain. Par contre, on est sur 500 hectares et non pas sur 100 000. Mais je pense que les deux sont complémentaires.
Et sur ces forêts en libre évolution, comme vous le dites, vous êtes favorable à la réintroduction d'espèces sauvages. Vous en parliez des loups, des ours, des bisons. Et là, par contre, il faut forcément l'intervention de l'homme.
Ah oui, dans la libre évolution, il y a malgré tout de temps en temps ce qu'on appelle des petits coups de pouce. Un petit coup de pouce, c'est par exemple la suppression d'un barrage et la rivière va retrouver sa fonctionnalité. Ce sont des réintroductions. Alors, le loup, à part à Yellowstone, donc, où il a été réintroduit, dans toute l'Europe, il a été réintroduit nulle part. Hein, il est revenu de lui-même. Par contre, il y a le cas de l'ours, notamment dans les Pyrénées, et puis le cas du bison. Alors le bison, il est en train d'être réintroduit dans une quinzaine de pays. Il y a plus de 6000 bisons sauvages, donc en Europe, c'est extraordinaire. Mais là, il faut trouver la place du bison. Alors dans la nature, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, c'est dans la tête de l'homme que c'est un peu plus compliqué. Et donc vous avez des pays qui acceptent le retour du bison sans aucun problème. Au contraire, ils en font même une valeur commerciale, en quelque sorte, pour l'écotourisme. Et vous avez d'autres pays qui sont réticents. Et pour ce qui concerne la France, par exemple, on n'ose même pas en parler.
Quel argument avancez-vous aux détracteurs, à ceux qui s'opposent à la réintroduction de ces espèces sauvages ?
Il y a des exemples. Les Pyrénées, c'est rigolo, c'est là où il y a le moins d'ours de toute l'Europe. Il y avait une cinquantaine d'ours. Et c'est là que ça concentre tous les problèmes. Dans les Carpates, tout ça, il y en a 3 à 5000 et tout se passe bien. Après, bon, voilà, il faut savoir vivre avec.
On va se projeter un peu plus loin vers le futur. Avec ce vaste projet de votre collègue botaniste Francis Allais, qui veut recréer une vaste forêt primaire au cœur de l'Europe, est-ce qu'on peut créer une forêt primaire ?
Alors, créer une forêt primaire, ça ne va pas se faire à l'échelle humaine. Pour qu'une forêt puisse retrouver les caractéristiques d'une forêt primaire, il faut compter grosso modo 1000 ans. Oui, c'est possible si on laisse une libre évolution dans une zone suffisamment vaste. Alors ce ne sera pas la forêt primaire originelle, mais ce sera une forêt qui aura retrouvé des caractères de forêt primaire. Et donc là, le projet de Francis Allais, c'est en Europe de l'Ouest. Il y a une chose dont on parle beaucoup, c'est la destruction de la forêt primaire dans les zones tropicales. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que chez nous, en Europe de l'Ouest, bah, ça fait longtemps que le travail a été fait. Il n'y a plus aucune forêt primaire en Europe de l'Ouest.
Et l'Europe en a besoin ?
Et l'Europe en a besoin, tout à fait. Il y a une grande biodiversité dans la forêt primaire et donc une grande résilience face à des événements catastrophiques comme des incendies, comme des tempêtes, mais également comme le réchauffement climatique. Et cette forêt primaire de Francis Allais, elle pourrait s'intégrer dans un réseau un petit peu plus vaste au niveau européen qu'on évoque, on lance l'idée dans notre livre. C'est ce qu'on appelle le grand projet C2C, c'est-à-dire Cordillère Cantabrique au Caucase, ou au Carpates si on veut rester dans l'Europe géographique. Et ce projet d'ensemble de réseaux sanctuarisés et connectés les uns aux autres, eh bien on l'a eu en regardant ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, ils ont créé un grand ensemble de zones protégées, ils sont en train de le faire, qui va du parc national de Yellowstone, donc aux États-Unis, jusqu'au Yukon, au Canada, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tout à fait la possibilité aussi en Europe de créer un vaste ensemble protégé et sanctuarisé dans lequel on peut avoir un réensauvagement qui ne rentre pas du coup en conflit avec les activités humaines parce que les animaux ont leur place pour pouvoir se développer, fonctionner comme ils l'entendent. Et l'humain aurait bien sûr sa place dans ce sanctuaire, mais c'est une place contemplative.
En attendant, l'Europe réensauvagée, c'est le titre de votre livre aux éditions Actes Sud. Et on l'a bien compris, l'attente, en l'occurrence, est très importante et elle peut déboucher sur des choses positives. Merci Gilbert Cochet, merci Béatrice Kremer-Cochet, naturaliste sur Accent d'Europe. À très bientôt.
Merci.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Accent d'Europe, aujourd'hui, émission spéciale sur la forêt, une émission réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site de RFI à la rubrique podcast et sur vos plateformes préférées. À très bientôt.